Nous sommes Daniel et Philibert, cofondateurs des Business of Bouffe, studio des stratégies et développement.
Nous sommes tous les deux passionnés par la bonne bouffe. Daniel est brésilien et vit à Paris depuis plus de 10 ans. Il est amateur de vin nature et adore cuisiner.
Philibert est savoyard et un ambassadeur de son terroir. Nos parcours corporate et start-up ont aiguisé notre sens business, sans jamais perdre de vue notre passion pour la bouffe.
Notre activité nous amène à rencontrer et accompagner les dirigeants et entrepreneurs du secteur food. Ainsi, nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast Business of Bouffe.
Nous parlons bouffe, mais avec un angle business.
Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Ivry-sur-Seine. Je suis comme d'habitude avec mon associé et amateur des cuisines indiennes, Philibert Chambre.
D'accord, bonjour à tous. On va y revenir.
Aujourd'hui, nous partons en voyage intervégétal. Nous sommes aujourd'hui avec Bina Paradin-Migoto et Yannick Migoto des Bingji. Bonjour.
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 On va démarrer tout de suite. On a une question qu'on pose à chaque fois, c'est pourquoi la bouffe. Mais avant d'y aller, on voudrait connaître, pour ceux qui ne connaissent pas, que vous puissiez expliquer ce qu'est Bingji et aussi vous présenter.
Alors du coup, Bingji, c'est une marque de produits alimentaires qu'on a lancée depuis 6 ans, ouais. Qui propose des prêts à cuisiner végétaux et dont la mission est de faire de l'alimentation un acte heureux dans toutes ses formes, ouais. En révolutionnant les usages et en connectant les mangeurs à eux-mêmes et aux nourriciers.
Parfait, ça c'est très précis. Et du coup, vos profils, qui êtes-vous en deux mots et après on reviendra dans le détail de l'aventure Bingji.
Donc, on a l'un et l'autre l'avantage d'avoir des familles dont les traditions sont dans l'alimentation depuis plusieurs générations. Donc, on est inspiré de nos familles. De manière plus précise, moi, j'ai donc 20 ans de pratique dans le monde alimentaire que j'ai pratiqué au travers de différents regards. Il se trouve que j'ai fait une école de commerce, HEC, que j'ai démarré comme beaucoup d'HEC dans la banque d'affaires, en faisant un stage, puis une coopération à l'époque, dans les fusions acquisitions où j'étais en l'occurrence sur le secteur alimentaire.
Ah, déjà à l'époque,
déjà j'avais appréhendé l'alimentation par la.
Est-ce que tu as travaillé sur un deal connu dans l'agroalimentaire?
À l'époque, on travaillait beaucoup pour un grand groupe français qui s'appelle Danone. Et donc,
ouais. s'appelle toujours Danone.
Et pour lequel on opérait on recherchait des entreprises pour faire grandir Danone aux États-Unis. J'étais aussi sur le secteur par ailleurs du cinéma, ce qui me permettait de passer du temps pour le coup pas mal à Los Angeles. Mais donc ça c'était le démarrage. Ensuite j'ai fait du conseil dans un cabinet qui s'appelle McKinsey pendant 7 ans où là j'ai pratiqué beaucoup de secteurs mais aussi le secteur de la distribution alimentaire.
Donc, c'était une passion pour toi ou c'était juste l'hasard de la vie là?
Non, à ce moment-là c'était pas une passion. En l'occurrence j'étais très curieux, j'avais envie de traverser différents secteurs. Dans le conseil, ce que j'ai apprécié beaucoup, c'est justement de pouvoir regarder, de pouvoir vivre différents secteurs. Mm-hmm. Donc j'ai vraiment dans le conseil voulu vivre différents secteurs et regarder, avoir des points de vue très différents. Mais il se trouve que entre autres j'ai fait effectivement des classes dans le monde de l'alimentation et j'ai rejoint ensuite en 2005 le groupe Casino dans lequel on trouve de nombreuses enseignes au-delà de Casino et de ses déclinaisons Monoprix, Franprix que les franciliens connaissent bien, qu'on trouve aussi dans des villes de province, ainsi que Cdiscount. Et donc j'ai passé 5 ans chez Casino et ensuite j'ai monté une première boîte de conseil qui m'a permis en fait où j'ai aidé des petits producteurs, des paysans à mieux se défendre, à mieux vendre leur production. Et j'ai passé 2 ans chez Amazon en France, dont j'ai lancé l'alimentation, les boutiques alimentation et boissons en particulier. Et j'ai rejoint Bingji. Et c'est la meilleure partie de mon aventure professionnelle et personnelle. J'ai rejoint Bingji en 2016.
Parce que Bingji, tu vas nous expliquer, mais Bingji s'était créé en 2011, c'est ça?
Non, on a commencé à commercialiser nos produits en 2013.
D'accord.
En octobre 2013 à NetExpo exactement.
Mais R&D, tu as démarré toi.
Oui, le projet a commencé effectivement en 2010.
Et tu peux nous raconter un peu de ton parcours parce que tu es dans la bouffe aussi depuis un moment quand même.
Alors moi la bouffe c'est vraiment ma passion depuis toujours, mais pendant longtemps ça n'a pas été mon métier parce que comme Yannick, j'ai fait une école de commerce, l'ESSEC en l'occurrence, et ensuite 2008, j'ai aussi fait de la banque d'investissement. J'ai travaillé dans le conseil en stratégie pendant 7 ans et ensuite j'ai rejoint Conforama où j'étais directrice de la stratégie au COMEX de cette belle maison. Et j'ai été en parallèle rattrapée par ma passion pour l'univers alimentaire, puisque c'est un univers qui m'intéresse depuis que je suis toute petite. Mmh. J'adore la cuisine, j'adore aussi tous les aspects nutritionnels qui me passionnent, parce que je pense que vraiment ce qu'on mange nous constitue très profondément et au sens très premier du terme. Donc pour moi, ça a été toujours une notion assez fondamentale, d'autant plus que quand j'étais jeune, j'avais pas mal de problèmes d'allergie et que je me suis beaucoup intéressée à comment on s'alimente. Enfin, je me suis rendu compte à un moment que l'alimentation avait un impact majeur sur ce type de problématique et qu'à l'époque, j'étais consultante et je me nourrissais essentiellement de sushis livrés au bureau et que bizarrement, c'était pas une alimentation très enfin, finalement, très bonne saine, pour moi.
Non, et très équilibrée.
Et je suis revenue à une alimentation plus proche de ce que j'avais chez mes parents, que ma mère cuisinait très bien, avec des légumes, des épices, des herbes, beaucoup plus de choses antioxydantes et antihistamiques, de fait, et qui m'ont permis de me retrouver en bonne santé. Donc, je pense que vraiment, cet aspect nutritionnel, il a été assez fondamental pour moi aussi dans mon aspect, dans mon histoire personnelle. Et enfin, la partie agricole. Parce que j'adore, j'ai toujours trouvé que c'était fascinant de mettre une petite graine dans la terre et de produire quelque chose de bon à manger. Donc j'ai toujours adoré faire pousser des choses, les regarder pousser, comprendre comment ça poussait. Donc je me suis toujours très naturellement intéressée à ces sujets-là. Et donc pendant longtemps, ça n'a pas été mon métier et ça a changé un soir suite à un dîner où j'ai une amie qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne fais pas un livre pour faire connaître cette façon de cuisiner qui était différente. »
Et à ces moments-là, tu travaillais chez Conforama, en fait.
Non, j'étais chez Atécornet, dans le conseil.
D'accord.
C'était avant Conforama. Et je me suis dit que c'était pourquoi pas, parce que c'est le moment où il commençait à y avoir des livres qui étaient publiés par d'autres gens que des chefs ou des journalistes. Hein, et j'ai envoyé mon petit synopsis par la poste à 3 maisons d'édition. J'ai signé avec La Martinière. Et on a fait. Et du coup, j'ai fait 3 livres de cuisine. J'ai commencé à collaborer avec des chefs.
La thématique, c'était la cuisine de ta famille, en fait.
Oui, à l'époque, c'était vraiment la cuisine indienne sur laquelle moi je me sentais la plus légitime, sachant que c'est qu'une toute petite partie, en fait, de ma culture culinaire. Hein, parce que moi, je suis d'une grande curiosité culinaire et j'ai la chance d'avoir un palais et un nez qui me permettent de reconstituer à peu près ce que je mange.
D'accord,
donc, par exemple, quand on voyage avec Yannick, on adore aller essayer des restaurants, mais ça peut être aussi bien la gargote de street food dans un village en Asie que le restaurant étoilé à Stockholm. On est hyper curieux, on goûte énormément de choses et quand ça me plaît et que je trouve que c'est intéressant,
tu arrives à répliquer chez toi,
tu veux savoir... par le fait de le refaire.
C'est pas mal ça.
Tu arrives à savoir ce qu'il y a dedans, tu arrives à retrouver les ingrédients.
Et si je ne sais pas, je vais me renseigner, essayer de comprendre comment est construit cette saveur. Et j'aime bien cette notion d'un peu de gamme culinaire, en fait, comme en musique, où on apprend plein d'éléments qu'on peut combiner ensemble après pour reproduire ou fabriquer sa propre musique. Je trouve que la cuisine, c'est tout à fait pareil. Et donc, du coup, à la fois les voyages, mais les livres. Quand je découvre un livre de cuisine que je trouve intéressant, je peux le prendre de la page 1 à la page 250 et faire toutes les recettes de façon obsessionnelle.
D'accord, ouais.
Et je me suis appropriée la palette culinaire de ce livre. Et donc après, ça va me permettre de créer des nouvelles recettes, de les intégrer dans mon quotidien.
D'accord.
Et on a vu que tu avais même fait un stage des cuisines à Monaco, en fait, dans un restaurant des Ducasse, Louis XV. Comment ça se fait ? C'est vrai cette histoire ou...
Oui, c'est une histoire.
Et comment ça se fait ?
Complètement vrai, parce que j'ai
tout
fait...
Tout ça en étant consultante à
non,
temps plein, en fait.
Non, à l'époque, c'était un peu plus tard. Donc,
d'accord.
Du coup, j'étais déjà entrepreneur. Et j'avais été repérée par l'équipe d'Alain Ducasse pour faire des cours de cuisine chez eux.
D'accord.
Et dans ce cadre-là, j'avais eu la chance de rencontrer le chef, auquel j'avais dit, écoutez, parmi les gens qui travaillent chez vous, je suis la seule qui ne suis jamais passer en brigade. Et j'aimerais passer en brigade. Et à l'époque, Alain Ducasse m'a dit, non, mais vous plaisantez avec tous vos diplômes, vous n'allez pas aller en brigade. Et je dis, si, parce que j'aimerais vraiment savoir comment c'est. Mm-hmm. Il m'a dit, bah, qu'en cela ne tienne, allez donc au Louis XV, passer une semaine. Et voilà, comme ça, c'est comme ça que j'ai fait mon stage au
en
Louis
brigade,
XV.
En cuisine.
À Monaco, c'est quand même la classe, au Louis XV.
Voilà, j'ai appris plein, avaient... plein de choses.
Ils avaient repéré donc tes livres, c'était tes livres de cuisine, tes recettes qui avaient attiré l'attention
qu'il y avait autour de ces livres, etc. Voilà, exactement.
Et juste avant de parler des Bindi, il y a encore un autre événement dans ta vie qu'on a trouvé hyper intéressante, c'est ta rencontre avec les chefs Rollinger, parce qu'à partir de cette rencontre, il y a eu plein de choses qui sont découlées après.
Complètement, oui, j'ai eu l'immense chance de rencontrer Olivier Rollinger dans son restaurant et d'échanger avec lui à Cancale. On est allé avec Yannick dans l'un des tout derniers services de la maison de Brécourt de son 3 étoiles, juste avant que ça ferme. Et j'ai tout simplement fait ma groupie parce que j'avais trouvé ce dîner extraordinaire en disant que j'avais été complètement bluffée par les plats et surtout par les alliances d'épices qui, évidemment, est un sujet avec... Mon origine indienne qui me parle beaucoup. Et au fil de l'échange, on a réalisé qu'on connaissait plein de gens en commun en Inde. Mmh. Et à l'époque, Olivier Rollinger fermait son restaurant 3 étoiles pour se consacrer au commerce d'épices. Et il m'a demandé si je pourrais l'aider à travailler en direct en Inde avec des producteurs.
C'est énorme.
Et moi, je me suis dit oui.
Ça, c'est quelle année ? Bindi n'existait pas encore.
Non, c'était avant Bindi, c'était en 2008.
Ouais.
Et...
Toi, tu travaillais plus à ce moment-là ou tu étais encore en poste
L'époque, j'avais lancé une activité de conseil entre la France et l'Inde.
D'accord.
Que j'avais considérée être une activité de transition et j'étais dans cette activité-là. Et donc,
c'est une belle opportunité qui se présente à toi à ce moment-là.
Exactement. Et donc, du coup, j'ai commencé à aller explorer en Inde les producteurs d'épices, sachant que le marché des épices, c'est un marché qui est extrêmement intermédié. Il y a plein de grossistes. Donc, c'est très difficile de travailler en direct avec des paysans en Inde, à la fois d'avoir des sourcings en direct, mais aussi ce que voulait Olivier Rollinger, c'était d'avoir des qualités, des variétés botaniques spécifiques. Donc, il y a eu tout un travail de fond qui a été fait, sur lequel moi, j'avais quand même un avantage assez important, c'est que le berceau des épices, c'est le Kerala, que je suis née au Kerala, sur la côte sud-ouest de l'Inde, et que c'est... En effet, enfin que je parle la langue, le malayalam, qui me permet de faire le lien entre les besoins d'un chef étoilé français et le paysan au Kerala.
T'as bossé combien de temps avec lui, du coup ?
Du coup, on bosse toujours.
Toujours avec lui,
parce que c'est lui qui fait les épices
Olivier Rollinger, puisqu'on a aujourd'hui une gamme d'épices qui s'appelle Olivier Rollinger by Bina, dans lequel il y a 7 mélanges.
C'est dans la continuité de cette rencontre
qui,
à ce moment-là, d'accord.
Et continue à se développer. On fait régulièrement des voyages de recherche d'ingrédients ensemble en Inde avec Olivier et maintenant Mathilde Rollinger qui reprend la partie épices qui est sa fille. Tout à fait.
Et comment l'aventure Bindi alors est née ? Comment vous avez eu le déclic comment ça s'est passé ?
Du coup, l'aventure de Bindi, c'était... au départ, vraiment un changement que je voyais assez... c'était encore des signaux assez faibles, mais dans mon entourage, de gens qui commençaient à se dire « mais comment je fais pour manger sans viande, sans poisson ?» Et en effet, moi, dans ma palette culinaire naturelle, je peux tout à fait faire un plat à base de légumes, céréales, légumineuses, oléagineux, qui est équilibré, très bon. Et donc, j'ai plein de gens qui s'interrogeaient sur comment faire ça, et notamment comment rajouter des céréales ou des légumineuses, parce que très souvent, pour des gens de culture française, c'est des lentilles bouillies ou du riz bouilli, ce qui n'est quand même
pas très excitant.
Hyper vendeur. Ouais, ouais. Et donc, je disais aux gens, mais c'est très simple, tu prends des lentilles, et puis tiens, tu mets tel mélange que j'ai fait avec Olivier Rollinger, et des tomates, et des oignons, et du gingembre, et tu auras un très bon dal indien. Mais même ça, les gens trouvaient ça beaucoup trop compliqué.
D'accord.
Et de fil en aiguille, je me suis dit, il faut que je leur mette tout dans la boîte. Oui. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de la première gamme de Bindi, qui sont les prêts à cuisiner.
D'accord. Et ça, l'idée, c'est toi qui l'as eue toute seule, ton mari t'a pas encore rejoint dans l'affaire. Comment ça s'est passé ?
Comment
tu t'organises au début ?
Non, en fait, mari Yannick a toujours été le partenaire de tous mes brainstorms, réflexions produits, réflexions marques. Et je pense que sans Yannick, je me serais jamais lancée parce qu'en fait, il m'a beaucoup encouragée à me lancer à cette époque-là. Ouais. Alors que, bah, effectivement, faire une marque de produits végétariens en alimentaire, c'était a priori un projet sur le papier qui pouvait paraître assez soit exotique, soit ambitieux à l'époque. Et Yannick m'a toujours encouragée à essayer. Et puis voilà, il a été vraiment soutien sur l'ensemble de la démarche.
Et puis on a l'un et l'autre en fait la chance d'avoir eu d'avoir des familles qui avec lesquelles on mange bien. Oui. Donc on a tous les deux eu des enfants.
Toi, tu es d'origine italienne.
Alors mais côté paternel c'est Italie, côté maternel c'est plutôt la Belgique, les Pays-Bas.
D'accord.
Donc des inspirations, enfin, en tout cas des effectivement là aussi des voyages.
Ouais.
Côté italien c'est on a le grand bonheur d'être des Vénitiens dans la famille et donc d'avoir voyagé de longue date, être une terre de sel, mais qui est allé chercher le poivre très loin. et donc on a le grand bonheur donc d'avoir des traditions familiales très ancrées dans la famille. Le repas est un moment important, le repas est un moment de joie. C'est quelque chose qu'on adore partager. Et on a l'un et l'autre vécu le traumatisme de devenir étudiant, de devoir vivre à la cantine universitaire, de découvrir que tiens, il y a un monde qui est pas que bon, et de s'être dit effectivement assez tôt, il y a quand même des choses à faire dans ce monde de l'alimentation. Enfin, il y a vraiment des choses à réimaginer. Moi, par ailleurs, j'ai eu pour rejoindre les inspirations que j'ai apportées à Bina, il y a eu un fait marquant dans ma vie qui a été mon premier voyage en Inde que j'ai mené en 2003-2004 lorsque j'étais encore
avec
dans le conseil.
Non,
c'était avant qu'on se connaisse.
Avant la rencontre.
Pas encore.
D'accord.
Donc j'ai fait en fait un voyage de quelques mois en Inde.
Quelques mois.
Avec le sac à dos pour l'occurrence, voilà, je souhaitais découvrir ce pays.
C'est un titre personnel, c'est pas dans un cadre professionnel.
Tout à fait personnel. Et j'ai vécu en fait finalement un choc qui est de se nourrir que d'alimentation végétarienne.
C'était la première fois
dans ma vie que j'arrêtais de manger de la viande et du poisson.
Surtout à cette époque.
Et j'ai vraiment vécu cette espèce de traumatisme au début qui est mais est-ce que je pensais vraiment, voilà,
je vais tenir un jour
français, est-ce que je vais vraiment arriver
un steak
à mourir, quoi. Mais j'étais vraiment bête. Enfin, j'étais en l'occurrence très candide sur le sujet et j'avoue, avec le recul, j'avais des a priori très négatifs sur le fait que ça pouvait déjà me satisfaire, être plaisant. Et puis, en fait, en pérégrinant en Inde, plus j'avançais dans l'Inde, et notamment plus j'allais vers l'Inde du Sud, qui est encore plus végétale que l'Inde du Nord, plus je me faisais vraiment plaisir, plus j'avais... c'était un bonheur pour moi de découvrir des traditions, des recettes.
C'est saveur, c'est nouvelle saveur.
Et en fait, donc mon retour, donc on s'est rencontrés après mon premier voyage en Inde, et j'ai beaucoup encouragé Bina à croire dans ce que des traditions,
traditions
végétales, comme l'Italie, comme l'Inde, pouvaient justement partager avec...
Mais c'est vrai qu'en 2011, la demande des consommateurs, elle n'était pas au niveau qu'elle est aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne se trompe pas de dire qu'on est dans une vraie tendance des fonds. Mais il y a 10 ans, c'est ce que tu disais, il y avait des signes, mais ils étaient quand même faibles, ces moments-là.
Oui, justement, c'était vraiment les signaux faibles qui m'ont mis la puce à l'oreille, et notamment un phénomène que j'ai remarqué, qui était que mes copains garçons qui avant se nourrissaient essentiellement de steak frites, tout d'un coup voulaient aller déjeuner chez Cogent et comprendre comment on mangeait des lentilles, du quinoa.
Oui, Cogent, il en a joué.
Et je trouve ça...
c'est clair.
Parce qu'il y a un truc qui change.
Ils sont passés chez des médecins qui l'ont expliqué qu'en effet, l'alimentation avait un impact sur leur santé parce qu'ils ont commencé à lire.
Cette époque-là. Par exemple, un livre qui, je trouve, a été très marquant dans la façon dont les gens se nourrissent, c'est Anti-cancer, de David Servan-Schreiber, qui, quand il est sorti, je crois que c'était 2006. De tête en 2008-2006, il y a eu beaucoup, beaucoup d'échos, beaucoup de presse, les gens s'y sont beaucoup intéressés. Et dans ce livre, fondamentalement, ce qu'il dit, c'est qu'il faut revenir à une alimentation plus végétale, que les régimes de type crétois, indien, etc., qui sont naturellement avec peu de protéines animales, sont des régimes bien adaptés, et qu'il y a beaucoup de questions à se poser sur la qualité de la viande qu'on ingère et son impact sur notre santé.
Ouais. Oui, on a été éduqués à manger de la viande. Moi, j'ai passé les messages à toute l'équipe ce week-end. J'ai regardé un documentaire qui s'appelle Game Changers sur Netflix. Et donc, moi, je de plus en plus végétarien, mais j'étais encore plus impacté. Et montrer une scène d'un film avec Stallone et Schwarzenegger. Et je pense que Schwarzenegger met un coup sur Stallone et dit: tu frappes comme un végétarien.
On a été éduqués, on a été formatés à la protéine animale.
C'est ça qui nous rendait forts, en fait.
Totalement.
Et c'est une erreur. On peut trouver de la protéine dans la légumineuse qui sont de meilleure qualité ou de la même qualité que dans la viande.
Largement.
Bon, on revient donc sur l'histoire des Benzi. Tu te lances avec une partie R&D. Tu as passé quand même beaucoup de temps à développer la partie, à développer un produit final, non?
Oui, j'ai passé presque 2 ans à développer le produit final, puisque finalement il y a eu pas mal d'obstacles. Mon concept, qui était très simple, qui était de dire il y a tout dans la boîte, il faut juste rajouter l'eau, était finalement très compliqué à industrialiser, puisqu'il y avait des problèmes de mélange. Notamment, moi, je tenais à ce que mes mélanges soient portionnables. Hein. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas à se dire, comme sur des formules qui existaient déjà à l'époque, hein, qu'on a une boîte pour 4 et que du coup, on est obligé de cuire pour 4 parce qu'en fait, le produit n'est pas homogène. Hein. Mmh. Donc, j'étais assez obsédée par cette idée de dire je peux le faire même pour une personne et ça sera toujours aussi bon. Par ailleurs, je voulais que ça soit des produits bio. Mmh. Et à l'époque, le bio, il y avait encore plein d'ingrédients, notamment sur les épices qui n'étaient pas disponibles en bio. Donc, j'ai dû vraiment mettre en place des filières, trouver les ingrédients. Et donc, tout ça m'a pris beaucoup, beaucoup plus de temps que ce que j'avais imaginé au départ.
Bien sûr.
T'es toute seule au début ou...
Oui, j'ai commencé toute seule.
Tu commences toute seule. Et pendant combien de temps t'as été toute seule alors?
Sur toute la phase de R&D. Et après, j'ai recruté ma première collaboratrice juste avant la commercialisation des produits.
Des premiers produits, la première saison. Yannick vient beaucoup plus tard alors, d'accord.
Ouais, on va...
Alors comment ça se passe alors, les débuts? Donc tu dis 2 ans de R&D, et comment tu commercialises ton premier produit, tes premiers clients, comment tu t'organises pour ça?
Alors, du coup, on a lancé à Natexpo, qui est le grand salon du bio, où nos petits camarades de jeu de Good Goût nous avaient suggéré de venir avec eux. Et ça a été une très, très bonne idée, parce que ça nous a permis de rencontrer en quelques jours
beaucoup... Et eux, ils avaient déjà une autorité.
Ils étaient déjà bien lancés. Ça nous a permis de rencontrer beaucoup de distributeurs, hein. Et notamment de trouver des distributeurs indépendants qui nous ont fait confiance, qui ont pris les produits, et d'avoir un partenariat avec Naturalia, qui nous a référencé
quelques mois plus tard. D'accord.
Voilà. Donc tu avais déjà un prototype en fait.
On avait des produits packagés, prêts à vendre pour le coup.
Et il n'y avait pas du tout de concurrent. L'offre à l'époque, il n'y avait personne qui faisait ce genre.
Ça n'existait pas.
La promesse, c'est ça, c'est du prêt à cuisiner. Végétal d'inspiration indienne, c'est ça?
Non, pas forcément d'inspiration indienne, c'est ton histoire d'ailleurs.
Ouais, ça c'est ton histoire, mais il n'y a pas ça du tout dans la
France. Exactement.
C'est vraiment le prêt à cuisiner végétal, d'accord. Et là, il n'y avait pas trop de concurrence. Okay.
Non, il n'y avait pas de concurrence.
Donc, Naturalia, ça se passe comment tout de suite? Ça se passe bien tout de suite. On imagine qu'au début, les échanges avec la distribution n'est pas forcément simple. Là, ça se passe bien?
Oui, on a eu la chance que ça se passe bien. On a été référencés quelques mois plus tard, puisqu'on a commencé au printemps 2014. Et on a eu plutôt des bons résultats qui nous ont permis de faire tâche d'huile et d'aller ensuite dans les autres réseaux de vente.
Et tu démarres avec combien de références au départ?
Au départ, on avait 8 références.
Oui, déjà, quand même. Et c'était tous des plats prêts à cuisiner, donc des riz avec des épices.
Il y avait des plats à base de lentilles, à base de riz, à base... on avait des galettes à base de sarrasin et de pois chiches. C'est ça les 8 recettes de départ.
Moi, j'ai testé en fait toute l'équipe. On s'est acheté du Bindi ce week-end pour tester à la maison.
Et on s'en porte très très bien.
Ouais, et moi, j'ai une question technique. Peut-être c'est une question toute bête. Hein. Mais par exemple, j'ai pris un riz avec des lentilles. Non, c'était quel riz? Moi, ma question, c'est comment on fait pour sécher certains légumes que normalement ils ne sont pas secs en fait, pour qu'ils puissent être hydratés après avec la cuisson? Quelle est la technique?
Alors, du coup, il y a plusieurs techniques disponibles, mais nous, on aime beaucoup. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on retrouve vraiment le goût des légumes une fois que c'est réhydraté et qu'on ne retrouve pas ce que souvent les gens appellent le goût de tomate en boîte, qu'on ait vraiment le goût de la vraie tomate. Et donc, on travaille beaucoup sur des légumes qui sont séchés naturellement, donc au soleil,
ah ouais,
en Italie.
Naturellement au soleil.
Ouais.
Vraiment.
Ouais.
D'accord.
vraiment le goût.
Pour garder la meilleure qualité du produit.
Ça, c'est une technique répandue dans l'industrie ou c'est quelque chose qui vous différencie par rapport à d'autres?
Non, le gros des légumes sont séchés en four.
Oui, ouais. Ouais. Ça me fait penser à des vins en paille qu'on laisse sur le soleil pour qu'il y ait une concentration, parce qu'il y a une concentration du coup des sucres, des nutriments dans ces légumes-là en fait. Et on récupère la totalité quand on les cuit dans...
Exactement.
Bah chouette. Bah c'est, tu vois, c'est pas une question toute bête finalement.
Non, non
mais
c'est hyper malin. C'est hyper malin au niveau écologique puisque on transporte pas l'eau, l'eau va dans les champs. Et donc
et vous n'utilisez pas l'électricité pour sécher.
L'impact carbone.
Et quand il fait pas beau, genre l'hiver, comment vous faites l'hiver?
Alors on achète aujourd'hui essentiellement des légumes d'été.
Oui.
On utilise beaucoup de tomates, de courgettes, etc. Et après, effectivement, sur les légumes, on a aussi des légumes séchés au four. On ne peut pas avoir que des légumes au salade.
Bien sûr.
Et du coup, sur les légumes d'hiver ou les légumes qui poussent toute l'année, il y a des méthodes de séchage. Mais on privilégie toujours des séchages doux parce que pour nous, ce qui est important, c'est vraiment la qualité organoleptique des ingrédients qu'on achète. Et quand on met, par exemple... une nouvelle carotte dans une nouvelle recette, on va goûter 10 carottes pour trouver celle qui a vraiment le goût et sélectionner ce producteur pour travailler avec nous.
Et une fois séché, ces légumes, il a une durée de vie qui est beaucoup plus importante.
Qui est très longue.
Qui est très longue, d'accord. Oui.
En fait, aujourd'hui, il y a des DLUO dessus, mais qui sont sans doute beaucoup trop prudentes.
Ouais, c'est prudent, mais on pourrait les garder plus longtemps. Les recettes, on est d'accord, c'est toi qui les élabores. Toujours aujourd'hui,
je les élabore et aujourd'hui, effectivement, comme on a de... plus en plus de recettes à élaborer. Je travaille aussi avec des amis qui sont concepteurs culinaires et qui m'aident à élaborer les recettes.
Super. Si on revient sur les débuts, donc distribution assez facile au début, tu rentres chez Naturalia avec en plus toute l'aspiration de Naturalia où tu vas obtenir un peu plus de distribution. Comment tu t'organises d'un point de vue production? Parce qu'au début, tu as commencé, vous aviez déjà des locaux, vous aviez...
À l'époque, c'est là où j'ai lancé mon premier atelier de fabrication, qui était dans le 10e arrondissement.
D'accord, en région parisienne. Okay.
Et dans lequel on fabriquait à l'époque l'ensemble de nos produits. Mm-hmm. Et ensuite, on a commencé à sous-traiter notamment le conditionnement parce qu'on n'avait plus suffisamment de place.
Ouais, parce que pour fournir Naturalia, j'imagine qu'il faut commencer à s'organiser un peu plus, avoir plus d'espace. D'accord. Voilà. Donc d'abord, tu externalises une petite partie de la production. Et ensuite, comment ça évolue alors?
Du coup, on a eu une étape où on a sous-traité le conditionnement pour regagner de la place. Et au bout de 2 ans et demi, on s'est rendu compte que c'était vraiment plus possible de continuer dans notre premier atelier qui faisait 150 mètres carrés. C'est là où on a déménagé ici, dans le coin où on est aujourd'hui à Évry, où on a un atelier de 500 mètres carrés qui lui-même a déménagé la semaine dernière
à Valence. Dans la Drôme.
La nouvelle, voilà.
Donc ça, encore une étape.
Et là, vous avez, du coup, je suppose, augmenté la capacité des productions pour pouvoir continuer cette croissance, en fait.
Absolument. Et notamment pour accueillir à la fois, d'abord et surtout accueillir plus d'ingrédients, puisque nous, on s'amuse, en fait, à...
Vous élargissez la gamme.
Un de nos partis pris, c'est vraiment de diversifier l'alimentation, de s'assurer que... de permettre aux gens de manger des choses variées. Ça fait partie des plaisirs des repas.
Bien sûr.
Pas toujours manger la même chose. Mais ça, c'est pourquoi la grande industrie ne le fait pas ou ne le fait plus. C'est que c'est compliqué à gérer plein d'ingrédients. C'est beaucoup plus facile d'avoir quelques ingrédients qui tournent. Aujourd'hui, malheureusement, le gros de notre alimentation est fondé sur quelques dizaines d'ingrédients qu'on retrouve dans...
Partout, avec des dosages différents.
De l'alimentation. Ouais. Le maïs en particulier, sous toutes ses formes, a envahi pas mal de nos produits. Et nous, on s'insurge contre ça. On veut vraiment rediversifier. Et voilà. Et donc, Valence nous permet d'accueillir encore plus d'ingrédients que Bina, après, s'amuse à mettre en recette.
Aujourd'hui, vous avez combien de références en total?
Aujourd'hui, on a...
Sans compter les vracs et packaging, juste des produits,
des recettes.
Des recettes. Ouais.
On est à une vingtaine de recettes aujourd'hui.
D'accord.
8
et
au début.
L'idée, c'est de passer à 100, 200.
Autant que possible.
D'accord, très bien, bah, super.
Ouais, notre idée, c'est vraiment de promouvoir la diversité des ingrédients et la diversité des recettes.
Oui, bien sûr, parce que imaginons que moi, j'achète du Bendy et je consomme ça avec une certaine fréquence. À un moment donné, je fais les tours des 20 recettes, j'ai envie de manger d'autres choses. Et je pense que toi, autant que créatrice aussi, tu as envie de continuer à développer de nouvelles recettes.
Complètement, il y a l'aspect recette et aussi l'aspect ingrédients, quelque chose auquel on croit beaucoup, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de diversité dans les productions agricoles, mais que tout n'est pas valorisé, parce que les gens cuisinent plutôt que ce qu'ils connaissent.
Bien sûr.
Je suis frappée par ce chiffre qui est qu'avec 20 ingrédients, on a fait 80%. 1% de l'alimentation mondiale.
Énorme.
Donc nous, c'est aussi l'idée de dire il y a des ingrédients qui poussent en plus petite quantité et dont on peut faire des recettes qui seront peut-être éphémères ou destinées qu'à une partie de nos canaux de distribution, mais en tout cas, on les valorise.
Bah super.
Et aujourd'hui, on a beaucoup de paysans qui aiment bien ce qu'on fait parce qu'on leur apporte en fait on apporte un débouché aux producteurs qui veulent rediversifier leurs champs. Pour eux, c'est un vrai bénéfice agronomique.
C'est
voilà, il y a plein de bénéfices pour eux à rediversifier leurs champs. Le problème qu'ils ont, c'est les débouchés. En petite quantité, il n'y a pas beaucoup de débouchés. Et donc, on reçoit littéralement de manière spontanée des échantillons et on nous dit, bah voilà, tiens, j'ai fait tel haricot. Qu'est-ce que vous pouvez en faire?
Édition limitée, vous avez déjà accès à. Est-ce qu'on peut parler du sourcing? Parce que je pense que c'est un point hyper intéressant. On discutait avant d'enregistrer, on parlait beaucoup des épices qui viennent d'Inde, tout le travail que vous faites de sourcing en Inde. Mais il y a une grosse partie des ingrédients qui viennent de France aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la stratégie des sourcing ou les différents centres de.
Ouais. Ah, donc le sourcing, c'est un métier que je pratique depuis une dizaine d'années. J'ai eu la chance d'être directeur des achats alimentaires du Wu Casino et d'acheter également chez Amazon, comme je le disais tout à l'heure. Mm-hmm. Et donc, j'ai, en fait, ça fait 10 ans que j'interpelle ce métier de sourcing. Le sourcing, c'est vraiment effectivement, c'est un jargon. D'abord, c'est un terme de jargon, donc on va expliquer ce que c'est. Sourcer, sourcing veut dire sourcer, aller à la source, retrouver et donc trouver des bons produits et des bons producteurs. Qu'on distingue de l'achat. Stricto sensu, l'achat, c'est acheter, c'est une fois que je sais ce que je veux, négocier.
Il y a une dimension de curation dans les sourcing.
Voilà, sourcing, il y a une dimension de sélection. Donc, un bon acheteur est un bon sourceur, en principe. Mm-hmm. On attend de lui qu'il connaisse bien, des champs, les ateliers par lesquels les produits vont passer, etc. Donc, le bonheur de sourcer, que Bina et moi pratiquons tous les deux, c'est que plus on le fait, plus on apprend, plus on découvre, plus on s'enrichit. Donc, il y a vraiment une première dimension. Il faut vraiment être beaucoup sur le terrain et il faut être beaucoup au contact. Moi, je me garderai bien de mettre le sourcing en algorithme. Je ne crois pas que ce soit comme ça. ma meilleure façon d'approcher le sourcing, c'est vraiment via ce que je vais ressentir des gens, des producteurs. Il y a une espèce de vibration. Et ça me trompe rarement. Quand on sent une vibration avec un producteur, souvent le produit derrière ces productions va être incroyable. Donc il y a des éléments aussi très très
humains,
très humains, très heureusement, émotionnels à bien sourcer. Alors comment on le fait? On fait, Bina et moi, dans Bindi avec notre équipe, on fait un peu ce qu'on fait à la maison. Donc c'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait à la maison? C'est que moi, tous les week-ends, c'est moi qui vais en général faire le marché. Je vais voir ce qui se passe, ce qu'il y a de saison, ce qu'il y a de bon. Et je rentre à la maison avec les produits que j'ai trouvés au marché. Je pars donc sans liste de courses. Et je rentre à la maison, je stocke tout ça.
Tu cuisines un peu?
Je cuisine un petit peu, mais j'avoue que j'ai du mal à m'imposer en cuisine.
Ça, c'est le sujet de Bina, la cuisine.
Bina adore cuisiner et j'avoue que je me régale de sa cuisine. Donc, on s'est un peu réparti les tâches. C'est moi qui fais l'approvisionnement. Et Bina ensuite va,
littéralement. À la maison et c'est aussi comme ça.
C'est comme ça aussi chez Bina. En fait, on va vraiment organiser. C'est du bon sens. C'est du bon sens. On va partir de ce qui est disponible de bons produits et après, Bina va utiliser son talent de cuisinière
pour élaborer des recettes.
Ouais. Même si vous n'êtes pas sur des produits de saison, parce qu'à partir du moment où les produits sont séchés, ils ont une durée de vie qui dépasse les saisons.
A justement réussi à introduire cette notion de saisonnalité même dans des produits secs, puisque depuis l'année dernière, on a lancé une gamme saisonnière sur nos mélanges. Et l'idée, c'est de dire que les gens n'ont pas forcément envie de manger le même plat de l'année à l'autre.
Oui.
Que sans doute, l'hiver, on a envie de plats plus confort, plus mijotés, etc. Que l'été, on a envie de salade, léger, etc. Ouais. Et donc, on a, sur notre gamme en vrac, lancé une gamme de saison. Donc, ça change. Il y a deux collections, printemps, été, automne, hiver.
C'est la mode.
C'est un sujet
qui passionne Daniel, ça.
Et on propose, par exemple, là en ce moment, on a un risotto aux champignons, qui est un plat très hivernal, automnal, etc. Et il va être remplacé au printemps par un risotto primavera, dans lequel on peut découper ses petites courgettes ou ses petites asperges pour avoir un plat complètement printanier.
Super.
Si on revient au sourcing, comment vous définiriez votre cahier des charges? Donc c'est 100% bio. Quels sont les autres critères qui rentrent en ligne de compte dans votre cahier des charges?
ça, on résume ça en disant bien fait.
Ouais.
Bien fait.
C'est pas mal.
En fait, il faut que ce soit, il faut qu'il y ait, voilà, faut qu'il y ait un ensemble de choses. Bien fait, c'est d'abord le premier élément, c'est des bons producteurs. Donc, comme je disais, l'humain.
Avec l'humain, voilà.
Voilà, il y a un élément humain. On a vraiment une première qualification, c'est qui sont les gens derrière les produits. Donc, c'est fait comment,
la
avec
démarche,
quelle, quelle démarche, quelle valeur. Le deuxième élément, c'est le goût. C'est il faut que ce soit bon. On va jamais prendre quelque chose pour des critères divers et variés si le goût n'est pas là. Et à que, exemple, aujourd'hui, pourquoi les tomates viennent des pouilles, nos tomates déshydratées viennent des pouilles, c'est qu'on n'arrive pas à trouver d'aussi bonnes tomates en France. Ouais. Il y a des tomates qui poussent, évidemment, en France. On adorerait avoir des tomates et on en aura un jour.
En goût,
mais pour l'instant, en goût, on n'a pas trouvé encore.
Là,
ouais. On espère, si on en apporte, on sera ravis, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé ça. Donc le goût. Ensuite, bien dit en bio, on ne fait que du bio.
C'est 100% bio.
100% bio, donc qui a des charges bio et on essaie d'aller au-delà désormais, enfin de participer à des dynamiques qui visent à justement nourrir, à emmener le cahier des charges bio vers le haut. Mmh. Et enfin, pour les productions qui le méritent, commerce équitable. Mmh. C'est le cas par exemple de nos épices en Inde qui sont 100% commerce équitable.
Et vous les faites venir en bateau, je lisais.
Ouais, bateau, oui.
Et les riz, c'est origine.
Le riz, alors le riz, le gros, il y a les recettes qui ont du riz basmati, évidemment, Inde,
oui.
En l'occurrence.
Il y a des recettes de riz des Camargues aussi.
Et on utilise voilà, des riz, alors riz italien aujourd'hui, des riz à risotto et bientôt des riz longs.
Super. On avait une question. Est-ce qu'on parle de la marque
on
peut-être?
Peut parler de la marque, même déjà.
C'est intéressant.
Non, Bindi.
Oui, c'est intéressant par rapport aussi aux recettes parce qu'il a une forte influence indienne. On a même vu, je pense que les premiers logos des Bindi, je pense que les graphismes, ils inspiraient encore plus l'Inde. Et ensuite, il y a eu un premier changement du logo. Et récemment, vous avez enlevé le H. Donc, on aimerait comprendre en fait les rationnels derrière
l'histoire de la marque,
l'origine de la marque. Voilà.
L'influence indienne qui a évolué dans le temps.
Pourquoi
racontez-nous
pourquoi
ça.
Bindi, tu peux nous expliquer.
En fait, dans la gamme d'origine de Bindi, donc, j'avais fait plutôt effectivement des recettes indiennes.
Oui.
Tout simplement parce que j'avais une certaine légitimité sur ce sujet.
Tu avais écrit tes livres sur la
voilà,
cuisine indienne et les recettes indiennes.
Par ailleurs, c'est probablement une des cuisines les plus intéressantes en végétarien. Donc, c'est naturellement une source d'inspiration quand on fait de la cuisine végétarienne. Et ce qui est assez drôle, c'est que le jour même du lancement, à NatExpo, il y a des clients qui nous ont dit « Mais pourquoi que indien ? Pourquoi pas d'autres saveurs ?» Et on a eu cette demande de façon récurrente dès le démarrage de Bindi. Et c'était aussi dans ma vision de la marque. Ce n'était pas forcément d'être une marque de produits indiens, c'était vraiment d'être une marque de produits végétaux.
À NatExpo, tu t'appelais déjà Bindi. La marque s'appelait
déjà
Bindi. Et Bindi, on peut revenir sur la signification.
C'est un nouveau nom que j'ai inventé, parce que trouver une marque, c'est jamais très simple.
Sûr.
Avec mon prénom, le Bindi, c'est aussi un légume en hindi.
D'accord.
Donc du coup, c'est le côté végétal de ce qu'on fait. Et donc très rapidement, on a commencé à prototyper, à expérimenter des recettes. Bindi, c'est aussi le point que les Indiens se mettent sur le front.
C'est une approche
très holistique de ce qu'on fait. C'est forcément. Enfin, je pense que c'est plutôt des notions qui sont inspirées de la culture indienne, mais ça n'a pas vocation à être indien.
D'accord.
C'est plutôt des éléments philosophiques de faire bien de façon un peu holistique.
D'accord.
Et donc, on a commencé à prototyper des recettes d'autres territoires culinaires. Aujourd'hui, parmi nos meilleures ventes, on a par exemple un couscous à la marocaine, on a une semoule d'épeautre à la provençale.
Mmh.
Et toutes ces recettes-là ont trouvé aussi leur public. Et c'est pour ça qu'on a voulu rendre Bindi plus large et enlever le H pour le rendre moins exotique. En fait.
Donc ça, c'est très récent, le H qui a disparu.
L'année dernière.
Oui, c'est l'année dernière, d'accord.
Ouais, je pense que ça a du sens quand on parle des risottos, des champignons ou des recettes des épeautres provençales. C'est vrai
moins dans le territoire indien.
Je pense qu'au début, ça a du sens d'avoir cette légitimité indienne parce que pour toi, c'était tout à fait authentique. Mais vite, c'est devenu une contrainte et les besoins d'élargir un peu les horizons. Je
totalement. Puis ça évoque le point que tu disais tout à l'heure parce que nous, on s'adresse vraiment au cœur de l'assiette et on a pas mal de clients très fidèles qui nous mangent régulièrement.
Mm-hmm.
Et effectivement, si on a envie de manger végétal deux ou trois fois par semaine, on n'a pas forcément envie de manger indien pour autant deux ou trois fois par semaine. Donc il faut aussi prendre ça en compte si c'était très important.
C'est clair.
Ouais, j'avais juste une question. Yannick, à quel moment toi tu rejoins l'aventure et justement pourquoi faire Tu nous as parlé des sujets sourcing, la priorité c'est pour le sourcing.
Donc moi j'ai rejoint l'aventure il y a 3 ans, bientôt 3 ans, avec comme mission de m'occuper de tout ce qui est production, donc de sourcer, d'acheter, de produire. On est nous-mêmes producteurs, on tient beaucoup à produire nous-mêmes, distribuer à nos clients, et puis l'administration, la finance. Donc Bina s'occupe de la création et du commerce.
Et moi, je pose cette question parce qu'en fait, la semaine dernière, il y a 3 semaines, on était avec un couple. On était avec Christophe Michalak et Delphine Michalak. Mm-hmm. La semaine prochaine, on aura un nouveau couple. Je ne peux pas encore annoncer. Et moi, j'ai déjà travaillé avec ma femme un couple. Ça n'a pas très bien marché. Comment vous gérez ça?
Ça parle à chaque fois.
Ouais, je vais devenir un peu un psy là avec les podcasts. Mais comment vous gérez? Parce qu'on voit dans la bouffe, dans la restauration, il y a beaucoup de cas des couples qui travaillent ensemble. Ouais. Dans les business, c'est un peu moins courant. Bah, comment vous gérez cette...
Ouais, c'est une bonne question, sachant que nous, on est entrepreneurs tardif finalement, parce qu'on s'est lancé, on avait déjà un peu d'expérience et avec en même temps,
un couple.
Et donc l'inconvénient, c'est qu'on a la crainte de se planter. Enfin,
oui,
c'est pas
ensemble,
moins facile quand on est déjà engagé dans la vie que quand on sort des études. Et donc, bon, la première, pendant longtemps, on s'est pas dit qu'on allait bosser ensemble. En fait, mm-hmm. pendant longtemps, enfin, nous, ça fait 10 ans qu'on entreprend, qu'on a vraiment que ça nous dé. Enfin,
chacun
adore ça,
côté.
Chacun de son côté, mais chacun de son côté aussi pour diversifier les risques, parce que il faut tenir. Et puis en fait, c'est finalement, on a côtoyé, au fur et à mesure qu'on entreprenait, qu'on côtoyait d'autres entrepreneurs, on a côtoyé en particulier des couples d'entrepreneurs.
Ah d'accord.
Tout à l'heure, Bina parlait de Gougou, voilà, hein, Michael et Julia. Une maison d'innovation digitale qui s'appelle Faber Novel, par Stéphane et Sabrina Distinguin. Mm-hmm. Voilà, ça fait partie des gens qui nous ont, il y en a d'autres, plein d'autres,
oui.
qui nous ont inspirés. Donc ça, voilà, ça a planté une graine qui a poussé, et puis en fait, il y a 3 ans, moi je quittais Amazon et c'est à ce moment-là que l'opportunité est venue. Bina, alors il se trouve qu'il y avait une autre start-up qui me proposait un super job, uh-huh. Et Bina à ce moment-là m'a dit mais non, c'est pas possible,
viens
rejoins-moi. Voilà,
j'ai pitché ma start-up.
Non, Marie, c'est original, mais apparemment ça a bien marché.
Et vous avez des astuces pour ceux qui souhaitent travailler en couple?
On a plein d'astuces.
ça intéresse particulièrement Daniel.
Ouais, voilà, je prends
Non, c'est très important pour nous d'abord de ne pas faire en sorte qu'on ne passe pas tout notre temps à ça, donc de bien préserver le couple, la vie de couple.
Bien
donc il y a des sujets qui ne passent pas le seuil de l'appart.
Vous avez des règles à la maison,
Nous on est fan de d'alimentation, de produits, etc. Quand on est en vacances, on va systématiquement voir des fermes, des producteurs, etc. Donc ça c'est pas grave, ouais. Ça c'est bien. Enfin,
c'est votre passion commune. Ça,
ça c'est une passion commune. On adore manger, aller voir des producteurs, etc. On le fera tout le temps. En revanche, les sujets opérationnels du quotidien, ils ne rentrent pas. Ça, c'est une règle majeure. Il ne rentre pas à la maison. Le deuxième point, finalement, quand on s'est mis à bosser, quand j'ai rejoint Bindi, le sujet, c'est notre équipe. Enfin, c'est une aventure. On a un grand rêve pour Bindi. Un grand rêve, c'est pas que Bina et Yannick. C'est d'avoir une équipe du tonnerre qui va s'amuser, qui va s'épanouir, qu'on va laisser s'éclater. Et donc, il faut qu'on leur laisse beaucoup, beaucoup de place. Et donc, le sujet, c'était aussi que ce soit pas la boîte que de monsieur et madame, et que les décisions soient prises sur l'oreiller à la maison. C'était surtout pas l'objectif. Et donc, on a été amené à libérer ce qu'on appelle nous libérer l'entreprise. Et donc quand j'ai rejoint Bindi, donc Bina avait cette idée-là, elle voulait engager cette démarche de donner plus d'autonomie, d'instabilité à notre équipe qui grandissait. Et le fait que j'ai rejoint Bindi nous a amené à accélérer ça, nous a amené à travailler beaucoup, beaucoup, ce qu'on fait toujours aujourd'hui, sur comment on s'assure que nos équipiers prennent des décisions. Donc ça nous amène aussi justement à être beaucoup plus, à faire des choses de manière très transparente avec l'équipe, ouais. À impliquer beaucoup, beaucoup l'équipe sur toutes les décisions que l'on prend. Et ça, ça fait qu'on ne ramène pas trop de choses à la maison.
Vous avez combien de salariés aujourd'hui?
On est 30 aujourd'hui.
Et c'est quoi les principaux métiers? C'est la production, il y a combien de personnes qui travaillent dans la prod?
On est à peu près, c'est moitié-moitié.
Moitié bureau,
En fait, Bindi, c'est moitié acheter, moitié vendre. Si on simplifie. Ouais.
Et vous faites référence dans des interviews à la notion d'entreprise libérée, cohérence et bien-être. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus cette notion-là?
Donner des exemples, parce que c'est pas très concret pour nous, ça. Ouais. Comment ça se passe, la vie dans une entreprise libérée?
La vie dans une entreprise libérée, c'est de faire en sorte que chacun ait un maximum d'autonomie, dans ce qu'il fait et que du coup ça rende le job de chacun hyper intéressant. Et l'objectif fondamental de la libération de l'entreprise, c'est vraiment de faire des salariés des gens heureux,
épanouis,
de venir travailler. Et une fois qu'on a dit ça, comment ça se passe concrètement aujourd'hui? Ben, par exemple, nous, on a une organisation hiérarchique qui est posée avec des postes et des sous-postes, mais finalement qui est pas très importante dans notre quotidien, puisqu'on va travailler essentiellement en squad, en petite équipe transverse, multi-compétences, multi-niveaux d'expertise aussi ou de seniorité, et qui vont mener les projets. Donc, on peut tout à fait avoir un projet qui est mené par un stagiaire et dans lequel moi, je suis juste contributeur.
Ouais. Sympa. Et est-ce que tu as un exemple, par exemple, récent d'un projet qui a fonctionné un peu dans ces modes-là? Genre la nouvelle marque, par exemple, c'est un sujet qui est porté par une personne de l'équipe et tu les accompagnes. Est-ce que tu as un projet concret pour qu'on puisse se projeter?
Oui, je peux donner le projet, par exemple, de refonte de notre plateforme de marque.
De marque.
Qu'on a travaillé sur ce mode-là, qui était mené par une chef de produit du marketing et dans lequel il y avait une équipe qui... où il y avait les commerciaux, où il y avait la partie production aussi.
Sympa.
Parce que faire des changements de plateforme de marque, c'est très bien, mais il faut que derrière, ça suive en termes de vente et de distribution, que ça soit facile à produire, à fabriquer pour l'équipe industrielle. Et donc, tout le monde contribue au projet dès le démarrage.
Il y a un sujet qu'on a discuté avec Yannick avant de démarrer l'enregistrement, qui était les packaging, en fait. Parce qu'on posait la question, on discutait par rapport au chai, et tu disais que tu n'étais pas content avec les packaging. Et on a posé la question du plastique. Et tu nous expliquais que pour vous, parfois, c'est impossible d'avoir des packaging en papier. Est-ce que tu peux nous parler un peu des contraintes que vous avez au niveau packaging et vos choix stratégiques dans ces contraintes-là?
Ouais. Donc nous, on est effectivement dans notre obsession, c'est de réduire l'impact écologique du packaging. C'est un élément au-delà de l'élément écologique, c'est aussi un élément important pour nous au niveau économique. On a pour mission, sur le plan économique, de servir des repas 100% végétaux, 100% bio, pour 1 € à 1,50 € la portion. Ce qui est pas beaucoup, en fait, on regarde de ce qu'on observe autour de nous. Donc, il y a une obsession d'enlever des coûts qui nous paraissent être débiles. Bon, le packaging, c'est un de ces coûts-là. Nous, on considère que on préfère payer un bon produit et ses ingrédients,
remettre la valeur dans le produit,
dans l'emballage. Maintenant, effectivement, la réalité, c'est que le monde du packaging est un monde très complexe et qu'il n'y a pas de solution miracle. Donc, nous, on a deux batailles. On a la bataille de il y a toujours des produits qui sont emballés, et donc c'est comment on fait pour s'assurer que le cycle complet de l'emballage soit le plus vertueux possible. Et donc le critère qu'on regarde principalement, nous, c'est le taux de recyclabilité. Et avec des vrais chiffres à l'appui, on a la chance d'avoir en France un organisme qui s'appelle Citeo, qui fait un boulot remarquable pour accompagner tous les acteurs de la chaîne, et qui fournit pas mal de données sur, en fait, en réalité, ce type de matériau-là, il va être vraiment recyclé à
100% recyclé,
parce que
c'est pas évident, quand même, d'y voir clair.
Si on prend un exemple, quand on achète de l'emballage, on achète en réalité, dans le jargon de l'emballage, on appelle souvent ça des complexes. En fait, beaucoup d'emballages sont composés de plusieurs types de plastique. Ah. Des complexes. Les complexes, c'est évidemment beaucoup plus dur à recycler.
C'est complexe.
Il faut redécomposer.
Il y a plusieurs couches.
Il faut décomposer. Les nouveaux emballages qu'on va prendre seront mono-matière. Et évidemment, mono-matière,
c'est facile à recycler,
extrêmement facile à recycler. Donc ça, c'est le premier enjeu, c'est de simplifier finalement, et c'est du bon sens. C'est pas si simple que ça dans le détail. Enfin, je passe tous les détails qu'il faut pour arriver à ça, mais c'est du bon sens que simplifier la matière qu'on utilise pour le packaging va largement améliorer sa recyclabilité et donc son impact sur l'écologie. Le deuxième, et on va dire le principal pilier qu'on comprend, c'est d'enlever l'emballage, tout simplement.
C'est
une méthode radicale, et c'est de vendre en vrac, mode de vente sur lequel on est pionnier en France. Bina avait été la première à y croire. dans le monde de la recette. On est le premier fabricant français à avoir lancé la vente de recettes en vrac. Aujourd'hui, en vrac, comme on le voit dans les rayons, on est souvent habitué à des produits bruts, amandes, noisettes, etc., le riz. Mais des produits, des recettes prêtes à cuisiner, ça n'existait pas. Donc, on a été pionnier en la matière avec, comme premier partenaire à l'époque, Biocoop, qui a été très, très moteur avec nous sur la création de cet usage et la pédagogie auprès de ses clients. Et c'est un usage qui, aujourd'hui, est incroyable. Nous, on fait maintenant la majorité, enfin ça se développe vraiment très bien.
Les vracs représentent quoi?
Et aujourd'hui, ça représente plus de la moitié de notre chiffre d'affaires.
Non,
oui, d'accord.
Ouais. Donc, on est maintenant une entreprise. On est maintenant une entreprise vraiment le vrac d'abord. Il y a beaucoup de choses qu'on fait maintenant d'abord en vrac.
C'est énorme.
Et en emballé ensuite. Des nouvelles recettes. Ouais. Typiquement, on va les tester désormais en vrac. Et on va ensuite.
Et la tendance, c'est que ça continue à augmenter les mix vrac et packaging, parce que les vracs, ils explosent en ces moments. Donc, pour vous, les projections, c'est que les vracs prendront encore une part plus importante.
Après, pour nous, il faut pas être jusqu'au boutiste, il faut pas imposer. Il y a plein de raisons, il y a des gens qui veulent pas, enfin qui ont besoin de la facilité, qui veulent la facilité de l'emballage, et donc on va pas leur imposer 100% vrac.
Il y a toujours des produits emballés.
En tout cas, pour l'instant, toujours des produits emballés. Mais ce que l'on constate, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de nos mangeurs qui adorent le vrac, et donc on fait plein d'efforts pour le pousser. On est en particulier un membre très actif de l'association qui promeut le vrac en France, et vous avez interrogé il n'y a pas très longtemps Célia de Réseau Vrac.
Merci Célia,
on adore Réseau Vrac qui fait un travail remarquable, en particulier sur le plan réglementaire, pour lever pas mal de freins réglementaires à la vente en vrac, dont on a bien besoin aussi.
Et j'y reviens juste sur le packaging. Une question, parce que j'ai appris une chose avec toi tout à l'heure que j'aimerais bien partager avec nos auditeurs, c'est que tu disais par exemple, parce que parfois autant que consommateur, on peut arriver dans un rayon supermarché et critiquer les industriels en disant mais il y a du plastique partout, et tu nous expliquais que pour certains produits, d'un point de vue les papiers parfois
protection.
Il y a la transmission de l'extérieur. Est-ce que tu peux nous expliquer ça en détail, parce que je trouvais ça hyper intéressant?
C'est vrai que dans les fonctions que va remplir un emballage, la première fonction, c'est de respecter l'intégrité du produit. Bien évidemment, enfin c'est du bon sens, mais c'est quand même l'alimentation peut créer des dangers, enfin il peut y avoir des problèmes sanitaires, et encore plus quand on est en bio, puisque en bio l'une des sources de contamination, malheureusement, c'est aussi après l'usine, après l'atelier, c'est des contaminations croisées dans le transport. Par exemple, nous quand on fait venir des produits bruts des producteurs, ils bossent très très bien, et le problème, ça va arriver après, durant le transport. Il suffit par exemple que deux lots, un produit conventionnel, un produit bio, soit proche, ensemble dans un camion pendant quelques heures parfois, pour que de la contamination passe de l'un à l'autre.
Donc
l'emballage, c'est d'abord une vertu de protection de l'intégrité du produit alimentaire, protection à la fois de ses caractéristiques comme bio, protection aussi de son intégrité en termes de goût, de qualité gustative. Nous, on a des produits, les bons produits alimentaires sont des produits vivants, ils continuent à vivre par définition, et il faut s'assurer qu'ils vivent dans de bonnes conditions. De ce point de vue là les emballages papier aujourd'hui n'assurent pas une protection suffisante pour les produits qu'on fait nous, ou alors au détriment au risque de créer des gaspillages monumentaux. On pourrait emballer en papier. On peut emballer en papier, par exemple, quand on vend sur un marché, quand on vend nous en direct au travers d'un événement, une kermesse, parce qu'il n'y a pas de problème. Les clients vont les emmener chez eux, le mettre dans un bocal en verre, etc.
Oui, même en vrac, on met dans un bocal à la maison.
En revanche, assurer une conservation longue avec un emballage papier aujourd'hui, ça ne marche pas pour nos produits à nous. Ça marche pour d'autres produits. Mais pour ce qu'on fait nous, produits à recettes, dans lesquels on a plein de composants différents, dont des produits gras comme la coco. Dont des produits il y a de l'humidité comme des tomates déshydratées, et des composés volatiles comme les épices, il faut assurer une barrière de protection. Ce que le papier n'apporte pas aujourd'hui.
Ouais. Mais qui dément, c'est que tu disais...
Demain, on espère bien. Alors, il y a plein de recherches qui sont menées sur le sujet. On espère, on attend les papiers qui soient vraiment...
Est-ce que vous êtes beaucoup
une barrière,
obligé d'utiliser encore du plastique dans certains packaging.
Et on a eu, en fait, chaque épisode, on demande à notre audience de poser des questions, en fait. Et il y a deux personnes qui vont en saluer. D'abord, il y a Nicolas Bergereau, fondateur d'Atelier des Chefs, qui a salué Bina. Et il y a Christophe Duhamel, fondateur de Marmiton, qui s'intéresse beaucoup aux usages, en fait. Et je pense que c'est intéressant de parler de la gomme Bindi. Aujourd'hui, vous avez des plats préparés. Il y a aussi des biscuits apéritifs, il y a des assaisonnements, il y a du thé. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo de la gomme
de
Bindi,
la gamme,
et nous parler aussi nous, ce qu'on s'intéresse à la partie business, quels sont les produits les plus importants ou qui pèsent plus dans l'activité Bindi?
Nous, notre objectif, c'est vraiment de couvrir le cœur de l'assiette. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse mettre un prêt à cuisiner Bindi à cuire, qu'on prenne à côté des légumes de saison, dans lequel on rajoute un assaisonnement pour avoir un plat complet, végétal, simple, sans trop d'efforts. Et c'est vraiment là-dessus qu'on focalise notre effort aujourd'hui. Mmh. Et effectivement, on a lancé des produits qui sont un peu à la périphérie de ce projet-là, puisqu'on a eu des demandes ou autres. Mmh. Et ce n'est pas le cœur de ce qu'on développe. Le cœur de ce qu'on développe, c'est vraiment les prêts à cuisiner et tout ce qui permet de compléter son assiette végétarienne. D'accord. Le cœur du repas.
D'accord. Ça, c'est aujourd'hui, ça représente la majorité de c'est l'activité.
80% des ventes, c'est des produits prêts à cuisiner. Ok, très bien.
Parlons des distributions, parce que c'est un sujet intéressant. On a parlé du vrac, on a parlé d'un Naturalia avec qui vous avez démarré l'aventure. À quel moment vous passez un GMS et comment ça se fait? Un grain de distribution, pardon.
Oui, tout à fait. On a été en fait appelés par des distributeurs pour pouvoir avoir nos produits.
Qui voyaient l'attraction des Bindi
ouais, bio. Assez rapidement après le lancement. Et on s'est retrouvés confrontés au fait qu'aujourd'hui, les marques en bio sont différentes entre la grande distribution et la distribution spécialisée.
Oui.
Et donc, on a créé une nouvelle marque pour la grande distribution.
Hmm. Ça, c'est un sujet qui nous intéresse.
Qui revient souvent, même ouais. si on est d'accord, c'est exactement le même produit. Paradoxalement, c'est la distribution bio qui vous impose d'avoir une marque différente en bio et en non conventionnel, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ouais.
Et la marque aujourd'hui conventionnelle, c'est Ayala, c'est ça?
Alaya.
Alaya, pardon. Et la question, parce qu'on a eu récemment aussi dans les podcasts Pool House qui développe un nouveau segment dans les œufs, qui est l'œuf qui ne tue pas la poule.
La poule, exactement.
Et eux, ils ont dit tout de suite, nous, on va aucun sens dans cette démarche-là. Nous, on passe en grande distribution avec la même marque.
C'est très rare. Ils ont réussi à conserver la marque dans les deux circuits.
Dans des situations pas confortables, mais quelle est votre vision par rapport à ça? Parce que moi, autant que consommateur, je trouve ça, avec tout le respect, de l'hypocrisie. Parce que si c'est les mêmes produits,
et nous, on partage ce point-là. En fait, il est hors de question qu'on soit hypocrite avec nos clients finaux, mm-hmm. que nous, on appelle les mangeurs dans notre
mangeurs,
à nous. Mais nous, effectivement, ça pour nous, effectivement, on n'a pas envie, c'est pas nous, on n'y croit pas. Un de nos principes d'action chez Bindi, c'est la transparence.
Ouais,
et on aime bien, comme on le fait là, on aime bien partager beaucoup de choses sur ce qu'on fait, comment on fait, avec qui on bosse, etc. Et donc, on ne veut pas... On veut pas avoir l'impression, direct ou indirect, de tromper des gens. Ça nous plaît pas. Donc, ce qu'on est en train de faire là, le choix qu'on fait, c'est on a tenté l'an dernier de passer à une seule marque. On n'a pas réussi à convaincre nos partenaires de distribution.
Donc les acteurs bio, c'est eux exactement. Qui imposent.
Et donc on a fait le choix. Donc on respecte leurs décisions. C'est des clients évidemment qu'on respecte. Mm-hmm. Donc, mais pour le coup, on joue pleinement le jeu de les spécialistes auront des offres de spécialistes et en grande distribution, on travaillera des offres plus, on va dire, qui touchent un public large. Et donc, on fait le choix aujourd'hui d'avoir deux gammes différentes. Ce ne sont pas les mêmes recettes entre les deux marques.
Ce n'est pas les mêmes produits, d'accord.
Nous, c'est les nouvelles, ce qui va arriver là prochainement en rayon, en grande distribution. C'est une marque avec des recettes totalement différenciées, pas les mêmes recettes, d'une part. D'autre part, on va accompagner les spécialistes, la distribution spécialisée qui a le mérite d'avoir été la première à bouger les lignes, à beaucoup innover, etc. Pour le coup, c'est une mission qui nous va bien, qu'on adore. Mm-hmm. On va les aider à aller plus loin et à continuer à créer
des
usages innovants. Le vrac est un exemple. Ils ont pris de l'avance. C'est génial. On va continuer à les accompagner en vrac. Ce qu'on a fait récemment, comme le disait Bina, lancer des recettes saisonnières, c'est un moyen. On est en train de le faire maintenant et ils sont les premiers à bouger ces lignes-là. Mm-hmm. La grande distribution est loin derrière sur ce sujet-là aujourd'hui. Donc, on va continuer à accompagner les spécialistes avec des recettes encore plus pionnières.
C'est très sympa.
Et effectivement, les aspérités, je pense, des mangeurs d'un réseau à l'autre sont en réalité assez fortes. Mmh. Et la semaine dernière, j'ai fait un focus group avec des clients de la distribution spécialisée qui faisaient vraiment leurs courses Bindi dans des enseignes spécialisées. Et j'ai été frappée par les demandes qu'ils avaient. C'est-à-dire que,
par exemple, tu peux partager avec nous
un exemple, ils voulaient des prêts à cuisiner à base de sarrasin. des choses qui sont
plus pointues, quoi.
Beaucoup plus pointues, sur lesquelles il y a une attente nutritionnelle beaucoup plus forte. Et moi, je crois vraiment beaucoup à ça. Je crois au fait qu'il faut que les réseaux de distribution aient chacun leurs aspérités et qu'on puisse, par contre, nous, avoir, être droit dans nos bottes en que fabricants, d'avoir la même histoire et la même qualité partout.
C'est la même philosophie, mais ce n'est pas tout à fait le même produit. Car ça, il répond
à des usages différents.
Exactement.
Et ce n'est pas la même clientèle.
C'est ce à quoi on croit. Voilà. En revanche, le copier-coller, effectivement, que pratiquent beaucoup d'acteurs de la production alimentaire, oui, ça, on trouve ça plutôt
ça
moche.
Ça ne peut pas rentrer là-dedans.
Non,
bah,
non. Bien, on ne veut pas y rentrer.
J'allais vous poser la question. Dans ma tête, je me disais, la grande distribution, ça vous apporte un volume plus important. Mais quand tu me dis que les vrac représentent plus de 50%, j'ai envie de croire que les bio, aujourd'hui, c'est les moteurs de votre croissance, en fait.
Ça a été, c'est vraiment le segment de clients sur lesquels on a vraiment bien développé Bindi. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous, on est amené à accroître le nombre de magasins par lesquels on est distribué. Ce qu'on constate, c'est qu'en fait, dans les gens qui nous appellent, qui nous contactent, il y a encore plein de gens en France qui n'ont pas accès aux produits. Donc voilà, l'enjeu pour nous maintenant,
c'est de gagner la distribution.
Bien sûr. Parce que, forcément, il y a plein d'endroits où on n'est pas distribué.
Aujourd'hui, vous êtes quoi? On a vu quelque part 2000 points de vente. Ouais. C'est autour de ça.
Sur ce qui est 2000, rappelons, en France, il y a 15 000 magasins alimentaires. Donc,
il y a de la marge encore.
Ouais, c'est clair. Et l'e-commerce, en fait, parce que vous avez une offre e-commerce sur les sites Bindi, ça marche bien, ça représente ces niches.
C'est un sujet que je connais un petit peu.
Oui, voilà. C'est ta casquette Amazon.
Il y a une espèce. On est dans des produits du quotidien qui coûtent quelques euros l'unité. Et donc, le sujet, en fait, c'est que. Aujourd'hui, nous on le voit comme un service. On rend service à des gens qui n'ont pas des magasins qui vendent les produits Bindi, donc souvent des Walaya, des gens qui ont trouvé les produits quelque part et qui, chez eux, ne. Aujourd'hui, c'est ce service-là qu'on rend.
D'accord.
On n'a pas mis beaucoup l'accent sur la vente en ligne. La vente en ligne, elle pourra vraiment représenter un élément intéressant pour nos clients le jour où on aura une offre un peu plus large.
Abonnement. Représenter une partie plus importante du panier de la personne.
Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on s'est dit, le fait d'avoir aujourd'hui un atelier dans la Drôme qui va nous permettre de faire des recettes beaucoup plus variées va donner au e-commerce un vrai rôle qui est de tester de pouvoir vendre des toutes petites séries, donc des choses quand on a vraiment des recettes originales qu'on veut expérimenter, qu'on veut tester d'une part, d'autre part des choses que parfois les distributeurs disent tiens telle recette, on prend un exemple la galette de pois chiche, notre recette de galette de pois chiche qui est une farine de pois chiche avec des petits mélanges d'épices, c'est un truc génial, enfin franchement c'est une galette qu'on mange avec des légumes de saison, enfin c'est un usage il y a des gens qui adorent, mais c'est une niche, il y a que ceux qui adorent les galettes de pois chiche, ils sont assez peu nombreux. C'est typiquement le genre de produit que des chaînes de magasins vont dire j'en vends une tous les X mois, machin. Quand on s'est dit un jour on va la retirer, on a eu des tas de mangeurs qui ont dit non, c'est pas possible. Donc ça, c'est un produit, par exemple, qui continue à marcher dans les magasins qu'il adore, mais qui va aussi très bien se vendre dans les commerces parce qu'on n'arrive pas à suffisamment le distribuer.
En fait, c'est donner accès à tous les catalogues Bindi à ceux qui souhaitent.
Toute la gamme.
Super. Et il y a une initiative dans la grande distribution assez innovante qui a les Bindi Bar avec Franprix. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette initiative?
Oui, c'est un prototype en fait qu'on a fait l'année dernière avec Franprix, et dont l'objectif était de promouvoir cette idée d'assiette complète avec donc du coup des bases de céréales et légumineuses Bindi complétées avec des légumes frais cuisinés. Et c'est une initiative qui a été hyper intéressante pour nous en termes notamment de retour client et de conforter notre hypothèse que le végétal peut nourrir plein de gens différents et pas uniquement des cibles de clientèle hyper éduquées et autres comme on peut l'imaginer, parce qu'au Bindi Bar, on avait des clients récurrents qui étaient des clients qui n'étaient pas du tout dans une démarche végétale ou quelconque, mais qui venaient simplement parce qu'ils y trouvaient une solution qui est savoureuse, saine, goûtue, à un prix accessible.
Et le choix de Franprix est un choix atypique. En fait, on ne nous attendait pas là. Oui. On nous attendait dans des... Voilà,
c'est limite de la restauration rapide.
Voilà. Ce choix de Franprix, il a été... donc, ce pop-up, on l'a conçu avec...
C'est l'initiative des Franprix ?
On l'a co-conçu, en fait. C'était suite à des échanges avec Jean-Paul Mocher et Cécile Guillou qui dirigent Franprix. Et où, en fait, justement, eux avaient vraiment envie de pousser des offres plus végétales et ne trouvaient pas grand-chose. Nous, par ailleurs, ça nous intéresse d'aller se confronter à un magasin de proximité avec un nouveau modèle. Mmh. Et ça a été effectivement un apprentissage extraordinaire. Pour vous donner un seul exemple, nous, on a fait, Bina et moi et toute l'équipe, on a fait beaucoup d'animation. Enfin,
c'était vraiment en point de vente,
en point de vente, le midi, à faire. Donc, la grande chance de ce genre d'approche, c'est qu'on peut, on peut faire tester, faire goûter,
avoir des retours tout de suite.
Et un des plus grands bonheurs, ça a été de constater que c'est un quartier de Paris où il y a pas mal de gros chantiers autour actuellement. Donc, il y a pas mal d'ouvriers du bâtiment qui travaillent sur le chantier du quartier qui, les premières semaines, on était là, regardait notre truc avec un œil circonspect. Ça, c'est pas pour moi, bio-végétal, hors de question.
Ça, c'est un truc de bobo.
Non, c'est un truc de bobo. C'était parmi les meilleurs clients quelques mois après.
À la fin.
Finalement, ils se rendaient compte que c'était hyper rassasiant. Ce qu'ils nous disaient, c'était que dans des métiers qui sont très prenants physiquement, où il faut beaucoup d'énergie, ils disaient, vos plats sont plus rassasiants que ce qu'on mange d'habitude, que le pain blanc, le sandwich, pas forcément toujours nourrissant, d'une part, et par ailleurs que c'était bon, et enfin qui retrouvait aussi un petit goût de voyage dans la journée, qui faisait pas mal.
C'est un point très très important, parce que c'est vrai qu'on peut avoir l'image de dire une marque comme la vôtre avec un engagement fort, cuisine végétarienne, ça va être une marque de bobo. Là, ce que tu nous dis, c'est que c'est finalement, enfin, de bobo ou de personne aisée, ou voilà. Et là, tu nous dis que c'est finalement un produit qui plaît à un public beaucoup plus large. Mais du coup, comment vous définiriez quand même votre cible? Elle est aussi large que ça? Ça va du bobo à l'ouvrier? Il y a quand même des profils. Déjà, est-ce que c'est une clientèle plutôt parisienne, urbaine, citadine? Comment vous définiriez votre clientèle?
Aujourd'hui, comme on a une distribution qui est très forte, notamment dans les réseaux bio, c'est des réseaux qui sont finalement beaucoup plus implantés en dehors de Paris que dans Paris. Et de ce fait, on a vraiment des clients qui sont un peu partout en France.
Ouais.
Et je pense que ce qui les caractérise, c'est quand même un intérêt pour manger mieux. Et il y a des motivations assez différentes, selon notamment les tranches d'âge, parce qu'on constate qu'on a des jeunes clients qui vont venir chez nous parce qu'ils veulent manger plus végétal pour des raisons environnementales.
C'est plus des hommes, des femmes, c'est assez équilibré.
Franchement, c'est assez équilibré en termes de mangeurs, en termes d'acheteurs. Je pense qu'on a plus d'acheteuses que d'acheteurs, mais les plats sont ensuite partagés, donc
c'est deux portions.
Et inversement, différemment, je dirais. On a des clients typiquement cinquantenaires qui sont très obsédés par rester en bonne santé, rester en forme, rester jeune, et qui vont passer à une alimentation plus végétale pour cette motivation-là.
Et sinon, l'international, aujourd'hui, c'est très français. Vous êtes présent dans d'autres marchés, pas encore?
Aujourd'hui, on est présent en Belgique, et c'est à peu près tout.
On va bientôt arriver aux enjeux pour la suite, et peut-être il y aura des choses à se dire par rapport à là. Il y a un sujet qu'on aime aborder parce que notre podcast s'appelle Business of Pouf, donc il faut quand même parler business. et il y a les financements, qui est un sujet qui intéresse beaucoup aux auditeurs. Au démarrage, en fait, tu as financé comment, Bindi? Avec tes propres moyens, ou des friends and family?
Oui, en fait, toute la phase d'amorçage a été financée par nous. Ensuite, on a effectivement ouvert notre capital à des friends and family.
D'accord.
Qui nous ont permis de faire notre premier atelier de production, de développer notre activité en réseau de distribution spécialisé, de staffer une équipe. Et on a fait l'année dernière une levée de fonds plus conséquente auprès de fonds d'investissement.
Et là, vous avez levé 4 millions d'euros avec l'objectif des quadrupler les ventes, c'est ça en fait? C'était ça les pitchs aux investisseurs?
Oui, c'est effectivement l'objectif qu'on poursuit aujourd'hui, et d'avoir aussi l'agilité et l'agilité de, enfin plutôt la capacité à mettre en œuvre le modèle agile qu'on a en tête et qui est en réalité très innovant puisqu'on ne veut pas du tout rentrer dans le modèle de la grande usine, des grandes séries, ce dont on a parlé au début.
Donc la méthode agile, ça veut dire avoir des ateliers un peu partout en France qui vont livrer des régions en fait. Et donc les premiers, c'est lui à Valence, mais l'idée c'est d'avoir un deuxième dans un autre coin de France, quoi.
C'est ça.
Vous avez déjà, vous commencez déjà à regarder ou vous êtes pas, vous attendez?
Non, pas encore.
Si vous venez juste acquérir le premier.
Ouais. Il a ouvert la semaine dernière.
Ah, mais c'est un sujet passionnant. On pourrait en reparler. Enfin, du modèle de production. Pourquoi en fait aujourd'hui, enfin c'est.
Allons-y.
C'est vachement intéressant. Ouais. J'intervenais il y a deux semaines au Pont et Chaussée, à l'école des Ponts et Chaussées, dans Paris Tech, sur justement l'industrie du futur. Et bon, ils m'appellent, ils me disent il faut absolument que vous veniez clore notre séminaire d'une semaine avec les étudiants sur l'industrie du futur. Je leur dis mais écoutez, nous, on fait de l'alimentation et de l'épicerie, on n'est pas la high tech. Pourquoi nous, quoi? Et la discussion avec les étudiants a été passionnante. Donc, c'est. Nous, justement, on veut vraiment s'opposer à la massification, à la banalisation. Quand on dit ça, une fois qu'on a dit ça, évidemment, c'est facile à dire, mais c'est hyper dur à faire. Enfin, pourquoi le modèle industriel s'est développé et aujourd'hui omniprésent et très puissant? C'est parce qu'effectivement, il répond à la complexité du vivant et de l'alimentation par des simplifications massives de réduire le nombre d'ingrédients qu'on utilise, réduire les processus, etc. Et puis créer parfois de l'innovation, créer de l'innovation de processus, de procédés. Dès l'instant où on dit qu'on veut rediversifier l'alimentation, qu'on veut bosser avec plein de producteurs, plein de paysans, plein d'ingrédients, sur plein de recettes, avec une Bina qui est extrêmement créative, le sujet c'est waouh, c'est complexe à gérer. Donc nous, en fait, ce qu'on travaille, pour revenir à l'aide de fond, ça veut dire qu'il faut des compétences, en fait, il faut des compétences très protéiformes, il faut faire bosser, comme on le disait en squad, des équipes avec des horizons, des regards très différents, du commerce à l'atelier. Et ça exige beaucoup d'expérimentation pour bâtir un modèle qui soit à la fois demain distribuable, qu'on puisse justement déployer dans plein de régions, sur plein de territoires et de terroirs, mais en même temps efficace, de telle sorte qu'on ne fasse pas payer aux mangeurs le prix d'un artisanat de luxe, ce qui n'est pas notre approche. On veut que ce soit accessible et efficace. Voilà.
Et c'est là-dedans qu'on utilise vraiment les nouveaux outils tech pour construire ce modèle.
Par exemple, quel outil tech
Typiquement, par exemple, nous, notre approche, c'est que l'atelier de production de demain, il doit être la technologie doit être là au service de l'homme, au service des hommes et des femmes qui bossent dans les ateliers. Pour vous donner un seul exemple de ce qui se passe réellement sous les toits de notre atelier, quand on a différents poivres qui arrivent ou différents curcumas, c'est pas facile à identifier.
Si on connaît pas, pas pointu.
Quand on vérifie ça, rien que ça, c'est pas simple. Quand on a des recettes qui changent régulièrement, la recette qui change, c'est aussi des équipiers auxquels on demande de se réadapter en permanence, de savoir se réapproprier les recettes. Là, typiquement, des petits outils interactifs qui accompagnent l'équipier en atelier de production sont vachement efficaces pour l'accompagner, le guider, l'aider. Comment on vérifie qu'un ingrédient est au bon niveau organoleptique? Pareil, là aussi, la technologie va être là pour accompagner, pour prendre des mesures, on va savoir comment ça fonctionne. Ça, c'est ce qui se passe dans l'atelier de production. Et on a donc notre directrice d'opération, Sophie, qui est basée à Valence, qui pilote ça de main de maître, qui adore ce sujet, qui vraiment apporte beaucoup d'intelligence et de passion à mettre en place en musique ce modèle dont on commence à voir vraiment qu'il est efficace. On commence à voir qu'il est vraiment, qu'il va fonctionner. Donc ça, c'est vraiment une grande preuve de cette section pour nous. Et par ailleurs, dans les activités de bureau, là aussi, c'est la technologie, ça va être comment on collabore. En fait, le sujet de l'entreprise libérée dont on parlait tout à l'heure, en fait, il est compliqué à mettre en place. C'est pareil, si plein de boîtes le font pas, c'est que c'est compliqué. C'est compliqué parce que se coordonner de manière souple avec des projets qui changent, c'est pas trivial. Donc, par exemple, un des partis pris qu'on a chez Bindi, c'est pas de mail. On a tué le mail. Il y a zéro mail. Enfin, on utilise les mails avec l'extérieur.
Zéro mail.
Zéro
en
mail.
Interne, on a Slack.
Pas Slack. On a une autre solution qu'on adore, qu'on trouve nous beaucoup plus puissante que Slack. Et c'est un outil de collaboration. L'outil, à la limite, c'est une plateforme, c'est un logiciel. L'outil est vachement intéressant, mais surtout, c'est comment on le fait approprier.
Comment on l'utilise.
Une autre méthode.
Ouais. Mais j'ai contacté Bina par email.
Avec l'extérieur.
Mais tu reçois pas beaucoup de mail dans la journée, quoi. Tu as une boîte mail qui est assez...
Si, parce que je suis beaucoup contacté par les gens de l'extérieur.
Par l'extérieur, mais en interne, parce que souvent, on voit dans le bureau des gens qui sont des mails alors qu'ils sont l'un en face de l'autre.
Non, ça,
c'est tabou chez vous.
Mais par exemple, pour donner un exemple de comment on utilise cet outil, un exemple de pourquoi cette approche-là, elle permet de libérer, qu'est-ce que ça apporte par rapport au mail? Le piège du mail, c'est que dans le mail, par exemple, souvent, on a plein de gens en copie. Voilà. Mais après, à la fin, qui est-ce qui est responsable? Qui est-ce qui est en charge?
D'une part, d'autre part, responsable,
par ailleurs, un sujet, quand on discute dans un échange, dans un mail, on va avoir en fait différents échanges finalement.
Bien sûr.
Un mail va incorporer différents échanges qui intéressent différents interlocuteurs. Nous, notre façon de collaborer, c'est. On travaille avec des tâches, ce qu'on appelle des activités, et à chaque fois, chaque activité a un seul responsable, c'est attaché à une seule personne. Donc c'est extrêmement clair, on sait systématiquement ce qui se passe, et on sait exactement ce qui va se c'est une activité, c'est exemple, développer une nouvelle recette. Enfin, c'est un terme très, c'est un verbe d'objet, d'action, il y a un porteur de projet.
Et donc, un groupe de travail qui va avec.
Tous nos objectifs sont partagés de manière permanente à toute l'équipe. Donc l'équipe, c'est exactement un instant T, qui fait quoi, à quel objectif pour les 3 semaines qui viennent. Et ça, sans ces genres d'outils-là, sans ces outils digitaux, on ne pourrait pas le faire, franchement.
C'est très chouette.
On sent les anciens consultants. Ça vient de votre vie d'avant ou pas du
non.
tout c'est,
non, le conseil,
ou au contraire, c'est pas du
le
tout
conseil,
des choses.
Le conseil, j'ai apporté plein de choses, mais pas celle-là. Non, pas moi, j'ai... c'est pas le conseil, c'est pas
c'est original, mais par
c'est
contre
pas la solution, c'est
travailler
pas,
l'organisation,
c'est pas Amazon, c'est non c'est vraiment le contact d'entrepreneurs. Donc on s'est beaucoup on a beaucoup interrogé de copains entrepreneurs, et puis surtout on a beaucoup lu. Et une des grandes fiertés qu'on a en Europe, c'est une boîte comme Spotify. Nous, une des boîtes qui nous a le plus inspiré dans la libération de l'entreprise, c'est Spotify. Le CTO de Spotify a partagé pas mal de choses sur leurs pratiques.
D'accord.
Et en particulier, ce qu'on a bien aimé dans l'approche Spotify, c'est que par rapport à des approches américaines qui sont souvent coucou les petits oiseaux, tout est bien, tout est gentil, tout marche très bien. Voilà, on aime bien les Américains, mais il y a quand même un côté un peu parfois, c'est trop facile quoi. La vie est quand même plus compliquée. Et les Suédois de Spotify, eux, ils sont beaucoup plus, en tout cas, ils nous ont apporté des pièces beaucoup plus réalistes, qui est en fait, il y a plein de choses qui ne marcheront pas. Il y aura des choses qui ne marcheront pas, et c'est pas grave. Tester, améliorer en permanence.
Il y a des documentations que tu recommanderais à nos auditeurs, peut-être des choses autour
de c'est un sujet passionnant.
Ouais, avec plaisir. Pour le coup, ils peuvent me contacter. J'aurais grand plaisir à leur partager les quelques pièces où je vous les passerai.
On mettra un lien sur notre article. Juste avant de passer sur la suite, aujourd'hui, Bindi, ça fait quelle taille en fait, entre 10 et 20 millions de chiffre d'affaires? C'est quoi aujourd'hui?
Alors, on ne communique pas sur notre chiffre d'affaires, mais on vend 5 millions de, on a vendu 5 millions de portions.
Des portions?
L'année dernière.
C'est énorme. On va faire des calculs alors. Donc,
vous avez le droit de recalculer si vous voulez.
Entre les vracs et les différents types des produits, on va passer un peu de temps à y arriver. On va parler de la suite.
Bien sûr. Non,
est-ce que avant de passer à la suite, est-ce qu'il y a un sujet que vous aimeriez aborder, dont on ne vous a pas posé la question? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez dire? Non,
c'est bien.
On va en passer à la suite alors. Pour vous, quelle est la vision pour Bindi? Vous venez d'élever de l'argent avec l'ambition de faire x4. Comment vous voyez les développements sur les 5-10 années à venir?
Mais du coup, pour nous, l'objectif, c'est vraiment de faire de Bindi une marque qui a une adoption assez large et qui devienne référente de notre mission qui est de proposer une alimentation qui soit un acte heureux dans tous ses aspects et sur lequel il n'y a plus de compromis à faire entre le goût, la santé, la planète, et donc d'avoir cette proposition de valeur assez complète pour nos clients.
Est-ce qu'il y a des produits à venir que tu pourrais... C'est des questions qu'on nous a posées aussi, s'il y a des produits qui vont sortir, est-ce qu'on a des exclus, des informations qu'on n'a pas vues par ailleurs?
Oui, on étoffe nos gammes sur la gamme Bindi avec des nouveaux mélanges qui vont arriver dans les prochains mois, avec toujours pas mal d'innovations à la fois dans les recettes et dans le type d'ingrédients qu'on propose.
On aura du sarrasin peut-être
C'est
suite
fort probable.
Suite au focus group, ça sert les focus group, c'est un sujet important.
Et on développe par ailleurs une nouvelle approche sur la grande distribution, dont on pourra vous dire un petit peu plus dans quelques semaines.
Ah, on aurait dû enregistrer ça.
On n'a pas encore l'exclu.
et les nouveaux étés, si jamais le développement des Bindi continue dans la même vitesse, l'idée c'est d'ouvrir un deuxième atelier, un troisième atelier, un peu partout en France. Vraiment continuer cette idée d'avoir des centres plus proches de la distribution.
Ouais, pour l'instant, l'enjeu est vraiment de s'assurer que notre démarche fonctionne sur l'atelier de Valence.
Sur celui-là.
C'est vraiment la focalisation sur Valence aujourd'hui. On a vraiment beaucoup de... Enfin voilà, notre sujet en étant producteur nous-mêmes, c'est d'assurer la mission qu'on évoque là, et donc de bien travailler sur la qualité, évidemment, d'une part, d'autre part, d'accueillir de plus en plus d'ingrédients et de recettes, et de s'assurer que notre modèle fonctionne bien et est efficace.
Vous dites qu'aujourd'hui, les vracs, ça représente une grosse partie de l'activité. Il y a récemment, je pense que c'est Carrefour qui a lancé un partenariat avec une société américaine, Loop. Mm-hmm. Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Vous avez regardé ça de près? Vous avez un avis ou...
Oui, on a. C'est pas un sujet sur lequel on va se mobiliser pour l'instant. Mm-hmm. On a été effectivement sollicité par Loop pour rejoindre la démarche, mais c'est pas un sujet sur lequel on est aujourd'hui. On est entrepreneur, on peut pas choisir toutes les batailles. On a encore une petite boîte. Il faut vraiment pas tout faire, se focaliser. Et nous aujourd'hui, notre focalisation, c'est vraiment sur le vrac, qui est le bon véhicule, qui est le bon véhicule.
Et une dernière question, c'est que par rapport à votre engagement, est-ce que vous cherchez à avoir, vous avez une certification, vous voulez être B Corp, ESS, est-ce que c'est des choses qui passent par votre
tête? Oui, tout à fait.
Vous pourriez.
Exactement. D'abord, on s'en inspire beaucoup. Enfin, d'abord, c'est à la fois les certifications et puis les entreprises qui les pratiquent sont des sources d'inspiration pour nous.
Bien
donc
sûr.
Clairement, on trouve ça génial, ces démarches, bio-entreprise durable pour la bio en France, B Corp, de manière plus globale, ce sont des démarches dont on s'inspire beaucoup et effectivement on va avancer sur ces sujets-là.
Super.
Le choix pour nous, c'est de, après le sujet, c'est il faut que ce soit ce qu'on veut, c'est qu'il y ait vraiment, c'est un effet d'entraînement, il faut que c'est un vrai effet d'entraînement sur notre stratégie. Et donc ce qu'on fait, c'est vraiment, on va pas le traiter comme un label entre guillemets, le côté label.
Oui.
C'est vraiment, le sujet, c'est nous aider à porter des batailles nouvelles, et de ce point de vue-là, c'est extrêmement utile.
On parlait d'international tout à l'heure, c'est pas forcément une priorité aujourd'hui. La priorité, c'est de gagner en distribution déjà en France.
France.
Il y a de la marge, on parlait tout à l'heure. International, ça fait pas partie des plans, des objectifs.
On est quand même sur des enjeux.
Sur
des enjeux où, vous connaissez bien le business of vous, dans le business de l'alimentation. On est sur des environnements qui sont très concurrentiels. En fait, beaucoup, si on prend les startups alimentaires en France, il y en a beaucoup, beaucoup, mais très peu arrivent à dépasser 1 million d'euros. Le taux de mortalité est monumental. Donc, on est sur des arrivées dans les rayons, rester dans les rayons. C'est des investissements très très conséquents. Donc voilà, nous on souhaite vraiment.
Et vous, ce seuil-là, vous l'avez largement dépassé.
On l'a dépassé.
J'essaie d'avoir mon
impôt. On l'a dépassé, mais il faut rester humble. C'est le monde bouge vite. Et surtout, on reste comme toute jeune pousse, on reste fragile. Donc c'est vraiment, il faut. Ce qu'on souhaite, c'est déjà. On a plein, comme on le dit tout à l'heure, plein d'enjeux encore de distribution à gagner en France pour être mieux connu, mieux distribué, et c'est ça notre focalisation.
Très bien. On arrive à la fin. On a une question rituelle qui est, dans l'expérience Bindi, quels étaient les plus gros apprentissages ou échecs et la plus belle fierté réussite?
Alors, le plus gros apprentissage, en fait, je pense que c'est un conseil que m'ont donné plein de copains entrepreneurs. Mmh. Mais comme tout entrepreneur qui se lance, on se dit quand même, non, c'est pas tout à fait vrai. C'est que ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on avait prévu.
On retrouve ça
chaque fois. À la fois, c'est un apprentissage d'une certaine forme de patience, de se dire, là, ça va arriver, résilience aussi. Et c'est aussi, un changement de philosophie, de se dire, qu'est-ce que je vais avoir dans 2 ans, 3 ans, que je commence à préparer maintenant, d'avoir cette espèce de vision moyen terme, et pas être uniquement dans, il faut que dans 3 mois, on ait fait ça, quoi. Mmh.
Ça, c'était, j'imagine, parce que quand tu passes 2 ans, 1 an et demi à développer les produits sans pouvoir se confronter aux consommateurs finaux, je pense qu'il y a plein de choses qui passent dans ta tête.
Et complètement, oui. Voilà. J'ai pensé plus d'une fois que ça pourrait pas se faire.
Bien sûr. Et pour toi, Yannick, c'est pareil. Qu'est-ce qui, pour toi, a été l'apprentissage depuis 3 ans?
Principal, oui.
Moi, je pense que le plus gros apprentissage, c'est de croire en ses rêves, ça marche.
Wow.
En fait, d'avoir une conviction intime qu'on peut changer les choses, ça fonctionne. En fait.
Si on vous aurait dit il y a 10 ans que Bindi serait assez
On n'aurait pas cru.
C'est énorme.
Absolument pas.
Ouais, c'est top. Et la fierté, je pense que c'est.
C'est ça, ouais.
C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça.
Et du coup, c'est certainement lié. On a une autre question rituelle, c'est quel conseil donneriez-vous à un entrepreneur qui aujourd'hui veut se lancer dans le business de la bouffe?
Bah, c'est exactement
c'est ça,
ce
c'est
dire
ce qu'on vient de dire. Voilà, c'est croire en son
rêve,
d'être résilient.
Et est-ce que, parce que ça prend, il y a plein de déconvenus en chemin, évidemment. Enfin, c'est jamais qu'on l'a prévu, c'est jamais aussi vite qu'on l'a prévu. Enfin, il y a des tas d'obstacles à franchir, des tas de trucs à découvrir. Enfin, nous, pour le coup, quand on s'est lancé, on avait la chance l'un et l'autre d'avoir quand même des bagages déjà et d'expérience.
Pas des jeunes.
Et malgré ça, oui. On a en fait le rôle d'entrepreneur, il faut réapprendre beaucoup de choses.
Ouais, c'est pas les mêmes métiers.
C'est pas les mêmes métiers. Il faut réapprendre plein de choses. Ne serait-ce que de vendre. Il y a plein de carrières aujourd'hui où on ne faisait pas amené à vendre.
C'est ça.
On n'est pas face au client.
On parlait de ça. Ok, la dernière question, c'est les bons plans bouffe à partager. Nous, on a élargi parce que là, vous êtes des gourmands, donc vous avez plein de belles adresses. Mais on pense aussi à des livres, podcasts, séries, films, des choses qui vous ont inspiré dans vos parcours. Et on a deux autres questions liées à ça. D'abord, il y a une question qui vient de Nathalie Uther sur Twitter qui demande quelle est la recette préférée quand Bina reçoit ses amis à la maison. et surtout, voilà. Si vous pouvez nous citer quelques plans bouffe, bons plans bouffe à Paris ou ailleurs.
Alors, une recette qu'on me réclame souvent, c'est le baba au rhum.
Ah ouais, d'accord, je ne me pensais pas à ça. Tu vois,
c'est mon dessert préféré.
Ah bon, voilà.
Qui te fasse inviter, Daniel.
Qui est au carrefour, en fait. D'abord, j'aime bien la pâtisserie, j'aime bien le côté technique, je trouve ça plutôt rigolo. Et c'est un baba au rhum que j'ai appris à faire pendant mon stage au Louis XV à Monaco.
Ah, ça doit envoyer ça.
Oui, il doit être fameux.
J'ai amélioré, enfin, en tout cas, mis à ma sauce.
Attention, avec, du casse.
Mis à ma sauce.
Petit coup de pression.
Petite nuance. Avec un mélange d'épices et de vanille que je fais.
Ah, d'accord. Donc, c'est un baboron qui nous fait voyager, en fait.
Voilà. Et du coup, on me le réclame souvent.
Est-ce qu'on
aura
une version bindi de ces baborons ou...
Non, je pense que ça restera un produit exclusif.
Exclusif, on va loin.
Et alors, les bons plans bouffe, les bons plans, je ne sais pas, indiens, mais au-delà de ça, parce que vous êtes curieux, donc vous avez fait des jolies découvertes récemment, des choses que vous aimeriez partager.
Dans les ouvertures récentes, on aime beaucoup pique-nique de Laura Portelli. Moi, j'ai beaucoup aimé ce côté pique-nique, quoi, d'avoir plein de petits plats qu'on assemble et d'autre part, d'avoir des vraies propositions végétales qui sont très bonnes. Et donc, c'est un restaurant dans les ouvertures récentes qui m'a enthousiasmé.
Ah, super. Et Yannick, toi, tu as un coup de cœur, quelque chose que...
Oui, dans les coups de cœur, je trouve qu'il y a justement, enfin, pique-nique, pour moi, c'est vraiment le coup de cœur parisien aussi.
Ah, d'accord.
C'est vraiment un coup de cœur au sens où il y a vraiment une approche. Moi, ce que j'aime bien, c'est des approches, en fait, aussi décontractées du repas, où on va, en fait, quand on est plusieurs autour de la table, pouvoir choisir et picorer. Un petit peu le mode qu'on a en Asie. Et vraiment, c'est aussi mon coup de cœur parce que c'est vraiment ce que Laura pratique et elle permet justement de partager des assiettes avec des choix majoritairement végétaux. Et c'est vraiment génial.
Bah, super. Je pense qu'on va s'arrêter là.
Parfait, merci
beaucoup. C'était
à
un plaisir.
Merci à vous.
C'était un gros plaisir. À bientôt, au revoir.
Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous.
Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofbouffe.com.
À très bientôt.